franceinter.fr.
Le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce lundi, un homme fonce délibérément sur deux abribus à Marseille. Un mort, un blessé. Il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. L'enquête s'oriente plutôt vers la piste psychiatrique. Younes Abou Yacoub. Toutes les polices européennes sont à la recherche de ce jeune homme de 22 ans d'origine marocaine. C'est bien lui qui était au volant de la fourgonnette qui a fait 13 morts sur les Ramblas de Barcelone jeudi dernier. L'enquête qui s'intéresse aussi à un imam qui a disparu. Il est soupçonné d'avoir radicalisé les jeunes auteurs des attentats. Dans ce journal, nous reviendrons sur la disparition de Jerry Lewis. Le roi de la comédie américaine est mort hier à 91 ans. Derrière ses gags, ses grimaces et son humour absurde, Jerry Lewis restera aussi le pilier du Téléthon américain et le premier parrain du Téléthon français il y a 20 ans. L'Amérique attend avec passion sa première éclipse solaire totale depuis un siècle. Une éclipse visible depuis 14 états d'ouest en est. Le phénomène sera en partie visible en Bretagne. Il y avait de la passion aussi hier au Parc des Princes pour les premiers pas de Neymar, mais le Brésil n'est pas en reste. Voilà son pays qui désormais bat au rythme du Paris Saint-Germain. Et puis le temps de ce lundi très classique, du soleil au sud et des nuages au nord de la Loire. Sébastien Léas.
Oui, bonjour Laurence. L'après-midi sera irradié de soleil de la Nouvelle-Aquitaine aux régions méditerranéennes et à Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en Loire-Atlantique, à la Sologne et au Jura. On notera juste un peu de vent en moyenne vallée du Rhône et en Balagne. Après-midi ensoleillé également sur le sud de la Bretagne, le golfe de Saint-Malo et la côte de la Déroute. Sur le reste de la Bretagne, la basse Normandie, le bassin parisien et le Grand Est, les éclaircies seront plus timides avec un ciel bien nuageux, mais les nuages vont lentement se désagréger par le sud. En revanche, l'ambiance sera plus triste des Ardennes au Nord-Pas-de-Calais et à la Picardie jusqu'en Seine-Maritime. La couche nuageuse restera imposante cet après-midi avec même un peu de bruine ou de pluie faible temporaire.
Alors en revanche, Sébastien, les températures sont plutôt en hausse.
Oui, surtout sur le sud-ouest où on gagne 5 à 7 degrés par rapport à hier. Cet après-midi, il fera 23 degrés à Strasbourg, 24 degrés pour Paris et Caen, 25 à Brest et Besançon, 28 degrés pour Lyon et au Mans, 30 degrés à Bastia et à Nantes et même 32 degrés à Toulouse, Biarritz et Béziers, mais sous la grisaille du Nord, il ne fera que 19 degrés à Reims.
Merci Sébastien Léas.
France Inter.
Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Big Ben, le célèbre carillon de Londres. Il s'est tu à midi et pour 4 ans, un silence forcé pour cause de rénovation. Cela fait 158 ans, presque sans discontinuer, que Big Ben rythme chaque heure la vie des londoniens du quartier de Westminster, accompagné d'un carillon de 4 cloches plus petites pour les quarts d'heure. Mais la cure de jouvence de 4 ans pourrait être abrégée face au mécontentement de nombreux responsables politiques de ne plus entendre la célèbre cloche londonienne. À Londres, Marina Daras.
4 ans, cela paraît long mais pourtant nécessaire pour préserver ce monument connu et reconnu à travers le monde. Il faudra tout d'abord 6 mois pour installer et démonter l'échafaudage de 100 mètres de haut qui recouvrira la tour Elisabeth qui abrite la célèbre cloche. Cette tour est rénovée tous les 30 ans mais l'ampleur de ces travaux-là devrait permettre d'espacer les prochaines rénovations. Les ouvriers apporteront un coup de jeune au revêtement extérieur à la merci du temps londonien depuis près de 160 ans. Des fuites d'eau ont également été repérées au-dessus de l'horloge, ce qui érode la structure en fonte. À l'intérieur, l'installation d'un ascenseur devrait éviter les 334 marches à monter en cas d'urgence et des toilettes seront installées. Des travaux de peinture et de conservation de la pierre sont également prévus. Du côté de l'horloge, son mécanisme qui date tout de même de 1859 devra être démonté entièrement pour nettoyer et réparer le pendule qui a tendance à se dérégler de quelques millièmes de seconde. Un travail colossal mais indispensable si les Londoniens veulent retrouver la ponctualité légendaire de Big Ben. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
À noter quand même que l'horloge va continuer de fonctionner grâce à un mécanisme électrique de substitution et au moins un de ses 4 cadrans restera toujours visible au public. Chasse à l'homme en Europe. Les autorités espagnoles ont communiqué à toutes les polices européennes l'identité du conducteur de la camionnette qui a tué jeudi dernier 13 personnes à Barcelone. Il s'agit bien, Nathalie Hernandez, du Marocain de 22 ans, Younes Abou Yacoub.
Oui, son nom était avancé depuis plusieurs jours et hier, le chef de la police catalane avait assuré qu'un seul homme était au volant de la fourgonnette sur les Ramblas, mais impossible pour l'instant de dire si le Marocain de 22 ans se cache en Espagne ou s'il a quitté le pays. Les enquêteurs commencent à retracer raconter son parcours après l'attentat, après avoir fauché des passants sur les Ramblas. Younes Abou Yaakoub abandonne son véhicule. Une des hypothèses, il se serait engouffré dans le marché de la Boqueria. Sur les images de vidéosurveillance récupérées par nos confrères d'El País, on voit bien un jeune homme correspondant à la description donnée par la police, vêtu d'un polo blanc à rayures d'un pantalon noir. Il a mis des lunettes de soleil. La suite reste à confirmer. Younes Abou Yaakoub aurait pris le métro jusqu'au campus universitaire. Il aurait alors braqué et tué un jeune automobiliste. À bord de cette voiture, il n'aurait parcouru que quelques kilomètres. Un contrôle de police l'aurait stoppé, l'obligeant de nouveau à s'enfuir à pied.
Nathalie Hernandez, la police doit encore communiquer sur le sort d'un imam. Il aurait endoctriné la cellule d'une douzaine de personnes qui a commis l'attentat de Barcelone puis de Cambrils. Il pourrait avoir trouvé la mort à Alcanar, la planque des djihadistes, mais pas de confirmation pour le moment. L'homme vivait, comme d'autres assaillants, à Ripoll, petite ville au pied des Pyrénées, où la police a mené ce matin de nouvelles perquisitions. Envoyé spécial de France Inter à Barcelone, Thibault Lefebvre.
Abdelbaki Essati a 45 ans. Il s'est installé à Ripoll en 2015 pour prendre en charge la mosquée Anour, un local sans prétention d'une centaine de mètres carrés dans une ruelle du quartier de la gare. Un peu moins d'une centaine de fidèles viennent prier ici dans ce que les 500 musulmans de Ripoll appellent la petite mosquée. Ali Yassine est le président de la communauté.
C'était quelqu'un de normal qui parlait comme tout le monde. Il n'a jamais prononcé de messages radicaux. On ne voyait rien de mal chez lui. Nous ne savions pas qu'il avait été en prison. On a vu dans le quotidien El País qu'il a été détenu 4 ans à Castellón pour des délits liés au trafic de hashish. Si nous avions su qu'il avait été enfermé et qu'il avait un tel passé, il ne serait pas resté ici.
Un passé nébuleux donc, qui aurait aussi échappé aux forces de l'ordre. Selon un autre membre de l'association des musulmans de Ripoll, des agents ont effectué un contrôle de routine au début de l'année, sans résultat. Josep Luis Trapero est le chef de la police autonome catalane.
On regarde ce qui se passe dans toutes les mosquées. On surveille toutes les communautés qui peuvent nous transmettre des informations. Mais nous ne voulons pas criminaliser les mosquées parce que ce sont des lieux de culte. Dans la grande majorité de ces lieux, presque dans leur totalité, les gens sont dévastés.
Les fidèles de Ripoll n'ont plus revu Abdelbaki Essati depuis 2 mois. Il aurait prétexté vouloir retourner au Maroc pour définitivement abandonner ses fonctions.
Thibault Lefebvre avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Un Marocain, donc Younes Abou Yaakoub, activement recherché, un imam marocain de Ripoll, soupçonné, 5 assaillants d'origine marocaine tués à Cambrils. L'attaque au couteau de Finlande menée par un Marocain, à chaque fois une même origine pour ces présumés terroristes. Le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances au roi d'Espagne et condamné fortement un acte criminel odieux, contraire à toutes les valeurs humaines et aux préceptes religieux. Les internautes ont également réagi. Joanne Longuepé.
Un internaute s'interroge, pourquoi autant de Marocains ? Pourquoi pas, lui répond un autre. Un échange assez représentatif des réactions sur l'origine marocaine des terroristes d'Espagne. Un blog en particulier a fait réagir. Son titre, j'ai honte de partager la même origine qu'un terroriste. Voilà ce qu'explique son auteur, un médecin entrepreneur de Casablanca. On sait tous que ces actes n'ont rien à voir avec l'islam, mais depuis plusieurs années, une culture véhiculée sous le manteau de l'islam produit cette intolérance envers autrui. Une responsabilité que refusent d'endosser d'autres internautes. Ces terroristes ne représentent ni l'islam ni le Maroc. Ils ne sont pas musulmans, juste des barbares assoiffés de sang et de tuerie. Ce sont des barbares et non des musulmans. Ils n'agissent pas au nom de l'islam. Ou encore, ces terroristes sont nés là-bas. Pourquoi nous associer à eux quand ils déraillent ? Car c'est aussi cette crainte qui revient désormais, celle de l'islamophobie. Les médias en ligne ont d'ailleurs relayé dès vendredi les actes de vandalisme contre un consulat marocain et une mosquée en Espagne. Casablanca, Joanne Longuepé, France Inter.
Retour en France avec une attaque ce matin contre 2 abribus à Marseille. Une camionnette a foncé sur des piétons, un mort et un blessé. Selon le procureur, la piste psychiatrique est privilégiée. Le suspect a été rattrapé par la police et placé en garde à vue. Bonjour Isabelle Dor.
Bonjour.
Le conducteur a d'abord sévi dans le 13e arrondissement de Marseille, puis dans le 11e.
Oui, c'est dans les quartiers nord que l'homme démarre son périple mortel. Il vise un abribus à 8h15 dans le 13e arrondissement, blessant une femme de 29 ans. Puis il fonce vers l'est, dans le 11e arrondissement et sa zone commerciale. Là encore, il cible un abribus et tue une femme de 42 ans, avant de se diriger vers le Vieux-Port, où deux voitures de la BAC interceptent la camionnette folle sur la rampe d'accès au Vieux-Port. Juste avant qu'il ne s'engage sur le Vieux-Port, il aurait pu faire un carnage. Car le Vieux-Port, c'est le cœur de la ville, avec de nombreuses terrasses de cafés et restaurants, le marché aux poissons, les navettes pour les îles, des centaines de touristes s'y pressent tous les jours. L'homme interpellé ce matin à 35 ans, c'est un petit délinquant connu pour des faits de port d'armes, vol et détention de stupéfiants. Un petit délinquant, donc pas un terroriste, c'est le procureur qui l'affirme. Les enquêteurs ont trouvé sur lui un courrier qui fait référence à une clinique psychiatrique et c'est la piste psychiatrique qui est privilégiée. On sait maintenant que cet homme originaire de Grenoble était venu à Marseille pour être soigné dans une clinique psychiatrique et il n'est pas fiché pour terrorisme. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Le ton monte entre la Turquie et l'Allemagne, dernier avatar d'une crise diplomatique qui dure depuis plusieurs mois déjà. L'appel du président turc Erdogan, il demande aux 3 millions de Turcs d'Allemagne de faire battre la coalition d'Angela Merkel aux législatives de septembre. Une attitude inacceptable, a dénoncé la chancelière allemande, d'autant que la Turquie n'hésite pas à faire arrêter des Allemands qui élèvent la voix depuis l'étranger contre le président Erdogan. Dernier exemple en date, en Espagne, où un écrivain germano-turc a été interpellé avant d'être libéré ce week-end. À Berlin, Cyril Sauvageau.
Libéré, mais sous surveillance, l'écrivain germano-turc Dogan Akanli n'est pas encore tiré d'affaire. Il n'a pas le droit de quitter Madrid le temps que les autorités espagnoles examinent la demande d'extradition de la Turquie. Mais cette libération est une première victoire pour l'Allemagne qui a fait pression sur Madrid. Pour Berlin, il est inacceptable que le régime Erdogan pourchasse des opposants jusqu'à l'autre bout de l'Europe et qui plus est avec l'aide d'Interpol puisque c'est une notice rouge qui a conduit les policiers espagnols jusqu'à cet écrivain connu notamment pour ses travaux sur le génocide arménien. Ce matin, Angela Merkel prévient, la Turquie ne doit pas abuser d'Interpol. Cette nouvelle affaire vient s'ajouter à plusieurs cas similaires. Une dizaine de ressortissants germano-turcs sont déjà détenus en Turquie. Depuis le putsch manqué il y a un an, Recep Tayyip Erdogan a fait de l'Allemagne sa cible prioritaire. C'est là que vit la plus grande communauté turque à l'étranger. C'est là aussi que beaucoup d'opposants ont trouvé refuge. Et le président turc a bien l'intention de perturber la campagne électorale à venir. Hier encore, il a appelé les Turcs d'Allemagne à ne pas voter pour les partis ennemis de la Turquie, que sont selon lui les Verts, le SPD et la CDU d'Angela Merkel. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
L'actualité sociale avec la reprise du travail ce lundi pour les 283 salariés de GMS après 3 semaines de vacances. Des vacances sans doute au goût amer car c'est toujours l'incertitude. L'entreprise de la Souterraine dans la Creuse est en liquidation depuis le 30 juin et le tribunal de commerce de Poitiers doit statuer le 4 septembre sur une offre de reprise. Reportage de Marc Bertrand de France Bleu Creuse.
Bernard a garé sa voiture sur le parking de l'usine. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas passé les grilles, mais quand on lui demande s'il a passé de bonnes vacances...
Oui et non, parce que bon, des vacances comme ça, tout en sachant que dans un mois, on ne sait pas où on va être, je sais pas si c'est des vacances. Bon, on essaye de pas y penser, mais bon, c'est toujours là, quoi.
D'habitude, Bernard part à la mer avec la famille, mais pas cette année.
Je restais chez moi. J'avais pas la tête à partir.
Ici, la fermeture estivale de l'usine a inquiété plus qu'autre chose. Jean-François, 53 ans et 36 ans à GMS, n'est pas parti tranquille.
On t'oblige 3 semaines de vacances. Tu sais pas si tu vas faire partie des gens qui restent pas. Le repreneur, est-ce que pendant 3 semaines, il n'y a pas eu des changements d'avis? Quelque part, est-ce que c'est pas une volonté non plus d'avoir éloigné un peu tout le monde du site pour désolidariser un petit peu le mouvement?
Alors les ouvriers reprennent l'occupation de l'usine. La production est à l'arrêt depuis bientôt 3 mois. Bernard ressort sa chaise, la même qu'il y a 3 semaines, et il l'installe à l'entrée de la tôlerie.
Il y a les copains, ils m'ont dit, mais vous travaillez? Ah ben, je dis non, on va arriver à 8h15, on va trouver une chaise, on va poser notre cul sur la chaise. Il y en a marre, quoi. Il manque que ça s'arrête. Arrivera ce qu'arrivera, mais il manque que ça s'arrête.
En presque un mois, les salariés n'ont eu aucune nouvelle, ni du repreneur potentiel GMD, ni du ministère de l'économie. Pour eux, ça veut dire qu'il va falloir à nouveau agir pour se faire entendre, par exemple avec de nouvelles occupations des sites de PSA et Renault. Marc Bertrand, France Bleu Creuse pour France Inter.
Cette fois, c'est écrit noir sur blanc devant la levée de boucliers autour d'un statut officiel de première dame. Finalement, l'Élysée s'en tient à une charte de transparence. En clair, Brigitte Macron aura un bureau, un cabinet et les moyens des actions qu'elle se choisira. Elle ne sera pas pour autant rémunérée car il ne s'agit pas d'un statut juridique. Si le Téléthon français existe, c'est en partie grâce à lui. On a longuement rendu hommage à l'humoriste et l'acteur qu'était Jerry Lewis, aussi à l'aise sur scène que devant ou derrière la caméra. Mais parallèlement à ses activités artistiques, ce père de 7 enfants s'occupait activement des handicapés physiques et mentaux. Jerry Lewis, mort hier à 91 ans, était aussi à l'origine du Téléthon américain en 1966, qu'il présentera jusqu'en 2010. Un engagement constant dans la lutte contre la dystrophie musculaire qui lui a valu une nomination au prix Nobel de la paix. C'est donc Jacqueline Pétros, tout naturellement, qu'il sera en 1987 le parrain du premier Téléthon français.
Oui, et c'est un peu par hasard que cela s'est fait. Début des années 80, Michel Gémy faisait partie d'une association avec Bernard Baratteau et Pierre Birambeau, tous pères d'enfants touchés par la maladie de Duchenne. En 82, Michel Gémy est aux États-Unis quand il voit à la télé cette émission très particulière.
On savait que ça existait, mais on savait pas comment que ça se passait. Et donc, quand je suis revenu en France, j'ai dit à mes amis, à mes compagnons de route, ça ferait bien qu'on puisse faire ça. Et donc, c'est à partir de là que, quand on a su que Jerry Lewis venait à Paris en 83, c'est là qu'on a pu avoir les renseignements pour aller beaucoup plus loin.
Alors, Jerry Lewis est propriétaire du concept. Il accepte gratuitement que l'association française soit son représentant en France et devient naturellement le premier parrain de l'émission. Et le comédien au grand cœur est bluffé par ce qui se passe pendant ce week-end. Un téléthon très différent de ce qu'il fait lui, Michel Gémy.
C'était un téléthon totalement différent d'une autre. C'était vraiment un téléthon très showbiz là-bas aux États-Unis, alors que nous, on a vraiment fait bouger toute la France. Quand on a fini le téléthon le samedi soir, il était vraiment... c'est exceptionnel pour lui quand même, ce résultat. Très surpris des Français.
Et bien évidemment, le courant passe particulièrement bien avec les enfants.
Il était vraiment très proche des enfants, très très proche. Et en même temps, il les a fait rigoler, les enfants, il les a fait rire.
Jerry Lewis est resté en contact quelques années avec l'AFM avant de s'en éloigner à cause de ses propres ennuis de santé.
Jacqueline Pétros, le sport avec le football et la tension qui monte entre Monaco et Kylian Mbappé. L'international français qui souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain a été exclu de l'entraînement, une sanction après une vive altercation la semaine dernière avec un de ses coéquipiers. Mais le football, c'est aussi la nouvelle star du Paris Saint-Germain qui a enchanté le Parc des Princes hier soir. Une belle victoire 6-2 face à Toulouse, mais surtout avec son nouveau maillot, Neymar a fait honneur au grand nom passé par la porte d'Auteuil. Il a le charisme de Rai, les dribbles fous de Ronaldinho, les rodomontades de Zlatan, n'en jetez plus. Le crack de 25 ans a même eu le bon goût de faire mieux que Rai lors de son premier match au Parc des Princes. En 1993, Rai n'avait inscrit qu'un seul but. Neymar, lui, s'est offert un doublé hier soir. Alors autant dire qu'hier soir, les Brésiliens n'ont pas manqué une miette de cette rencontre parisienne. C'est le reportage de Marine Dacher.
Hier après-midi, dans ce bar de Santa Cecilia, les fans de Neymar n'ont pas été déçus. Wilson s'est arrêté de travailler pour suivre l'ancien du Barça sur le petit écran.
Avec cette équipe, le Paris Saint-Germain, il va être le meilleur joueur du monde. Il est le seul à jouer et à prendre ses responsabilités. Même les Brésiliens du PSG ne lui arrivent pas à la cheville. C'est un joueur décisif, il joue comme personne, il va gagner le Ballon d'Or.
Jason, lui, suit en même temps le championnat brésilien et PSG Toulouse, mais à la deuxième mi-temps du Parc des Princes, il ne quitte plus Neymar des yeux.
Il fait la différence, il nous rend heureux. Il n'y a pas que lui au Brésil à jouer comme ça. Ses dribbles, ses goals, je suis fan de lui. Il a bien fait d'aller au PSG, il va cartonner. Je vais acheter son nouveau maillot avec son nom.
Les commentateurs sportifs brésiliens sont unanimes. Neymar a offert aux Parisiens son meilleur jeu et du bon spectacle.
Marie Naudacher, le soleil a rendez-vous avec la lune pour la première fois depuis 1918. Une éclipse solaire totale va traverser aujourd'hui les États-Unis. Elle va plonger dans l'ombre 14 états d'ouest en est pendant près de 3 minutes. C'est-à-dire que le soleil, la lune et la terre seront parfaitement alignés. Les Américains se préparent à fêter l'événement car c'est de là-bas qu'elle sera bien visible. Finalement, toute la difficulté avec les éclipses totales, c'est de se trouver au bon moment, au bon endroit. Alors en France, les habitants des Antilles, de Guyane et de Saint-Pierre et Miquelon pourront l'apercevoir de façon partielle, tout comme les Bretons, entre 21h30 et 22h15. Brest ou l'île d'Ouessant seront les meilleurs spots, comme l'explique ce passionné Guy Hartzner de la Société française d'astronomie.
Aux États-Unis, pratiquement sur toute la bande de la centralité, les observateurs pourront bénéficier d'une éclipse totale de soleil. Et nous, à la pointe de l'Europe, surtout à l'ouest, eh bien, au moment du coucher du soleil, nous aurons à peu près 2% de la surface du soleil qui sera masquée pendant une trentaine de minutes juste avant le coucher. Donc ça sera vraiment pas spectaculaire. Il faut être bien équipé, il faut être à un endroit, si vous voulez, avec une vue de l'horizon ouest du coucher du soleil bien dégagé, qui n'est pas trop de nuages. Et puis, il vaut quand même mieux avoir un instrument grossissant. Hein. Disons, les gens qui ont gardé précautionneusement leur verre de soudeur ou leur lunette d'éclipse, et pourront essayer de regarder, voir s'ils distinguent un petit quelque chose.
Propos recueillis par Sandy Dauphin, France Inter, il est 13h20.